Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 28 janvier 2013. On a un petit peu écourté l'indicatif parce qu'on n'est pas vraiment en avance avec Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex qui piétine en attendant son départ pour Tombouctou.
Oui, oui, voilà. Tombouctou, c'est pour prochain objectif. Ça, c'est d'ailleurs un beau titre de film, hein, on pourrait dire.
Taxi pour Tombouctou, mais ça existe déjà avec Tombouctou.
Ouais, ça doit exister un film avec Tombouctou dans le titre. Oh,
voilà, bon, on va aborder l'actualité internationale. Ben, on est parti là-dessus, on va peut-être y rester, bien que ce soit franco-international, puisque les militaires français, comme on le disait la semaine dernière, qui ont donné beaucoup de cœur à l'ouvrage aux militaires maliens, avancent, ils avancent pas tout à fait dans le brouillard, parce qu'ils prennent soin de se faire précéder par l'aviation et par les hélicoptères, donc du coup, il semble que les autres, sentant que leur pick-up avec leur petite mitrailleuse ne feront pas le poids en face de tout ça, se replient fissa, et du coup, il semble que l'avancée se fait assez facilement, même si sans doute il y a des combats, des exécutions, puisqu'en tout cas, on ne laisse pas les journalistes librement avancer, avec peut-être le prétexte de les protéger d'éventuels enlèvements ou autre chose. Mais enfin, on peut aussi penser que, comme dans toutes les guerres, les gens qui les mènent ne tiennent pas trop à ce qu'on regarde trop près ce qui se passe, qui n'est pas sous contrôle de la communication officiel, quoi. C'est un peu ce qu'on ressentit.
On sait peu de choses d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, par exemple, on voit pas que c'est une guerre sans cadavres.
Bon. Oui, enfin, pas tout à fait quand même. Hein. Tu as suivi un petit peu. Par exemple, on a appris que quand ils ont investi Sekona, la première ville, là, les gens leur ont dit qu'il y avait eu au moins 11 morts tués par les bombardements de l'aviation française, des civils, hein, là, pas des combattants, qu'il y avait eu des habitants proches des qui s'étaient liés aux islamistes qui ont été liquidés, et qu'il y avait un certain nombre de corps de combattants islamistes morts qui étaient abandonnés à droite et à gauche. Qu'est-ce que tu fais avec ton micro, là? Voilà. Et puis, il y a aussi des dizaines de soldats maliens qui sont morts au combat. Alors, oui. J'avais entendu ce reportage avec un journaliste de Radio France qui avait été accompagné par les militaires maliens, bien encadré. Et puis, une fois arrivé dans la ville de Kona, les mecs ont profité d'un peu de pause des militaires et se sont barrés à droite à gauche, quoi. Et on peut discuter avec la population, les autres les ont laissés faire, du coup. Et c'est comme ça qu'ils ont ramené ce genre d'infos, quoi.
J'ai l'impression que c'est des reportages, c'est assez marginal, hein. Je veux dire qu'il n'y a pas la volonté. D'habitude, les journalistes se précipitent derrière les militaires parce qu'ils sont à l'abri, et ensuite ils ont envie de ils doivent rapporter des choses, il faut qu'ils disent des choses, faut qu'ils disent que c'est pas forcément une guerre propre, quoi, c'est ça, tout ça. Bon, mais ça non, c'est exclu pour l'instant. La presse française fait chorus avec le gouvernement sur ce thème là
Il semble aussi que les militaires, à force d'expérience, Irak, Afghanistan et ailleurs, affinent un peu leur technique de communication, ils appellent ça, c'est-à-dire d'encadrement de la presse. C'est que c'est vrai, quand c'est des zones où c'est pas facile de pénétrer d'une manière ou d'une autre, eh ben ils tiennent pratiquement les journalistes à l'écart, en dehors de ce qu'on veut bien leur servir officiellement, quoi.
Hein? J'ai entendu parmi les exploits de l'armée française, c'est hier, quand ils ont mis les pieds là, à quelques centaines de mètres de Tombouctou, de l'aéroport, ils sont allés tout de suite sur l'aéroport, ils sont tombés dans une zone boueuse. Alors je ne sais pas si c'était dû, je ne sais pas les explications, si c'était dû à la à des tornades, à des grosses pluies, ou si c'était comme ça l'état du terrain. Mais on nous a expliqué que les Français avaient mis 10 heures pour faire 4 kilomètres à pied. Et parce que de toute façon, les voitures, les temps, rien ne pouvait passer. Alors c'est vraiment des héros, et je crois que à la vue de ces héros là les troupes maliennes ne peuvent que prendre les choses en main, hein. elles sont subjuguées par cette capacité héroïque des Français.
Alors, les Français, ils sont à peu près 2500, enfin, l'ordre de grandeur. Il y a autant de Maliens au moins, et il y a autant d'Africains pour le moment avec eux. Sachant que les soutiens européens de la France se font excessivement attendre. Oui. Tout le monde applaudit des quatre mains, mais personne ne bouge et ne fait rien, quoi.
C'est assez. Demain, il y a une réunion, je crois, des donateurs.
Oui, oui, des donateurs. Mais là encore, c'est pas des engagements militaires sur le terrain, quoi. C'est pour voir comment on peut financer l'opération. Voilà, bon, il s'avère quand même, alors le territoire est grand comme 2,5 fois la France, c'est pas avec 5 000 militaires qu'on va le tenir efficacement, mais bon, les conditions sont un peu particulières, et puis il semble aussi qu'une grande partie de la population est extrêmement soulagée de voir ces militaires arriver, parce qu'ils étaient sous la pression des islamistes, et à part ceux qui collaboraient outrageusement avec, ils en ont pas mal souffert, les gens, et ils voyaient pas d'issue à leur situation. Là, c'est un peu miraculeux, quoi, ce qui leur arrive.
Oui. Mais ça donne pas une y a pas d'issue dans le moyen et le long terme, parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Oui, ça c'est un autre problème.
La France dit qu'elle va, elle a pas vocation à rester sur place, donc là elle doit permettre à l'armée malienne d'instaurer son pouvoir, et aux élus qui avaient fui reviennent, et qui reprennent les rênes du pouvoir dans ces deux villes principales, on passe à Gao et Tombouctou. Oui. Mais est-ce que c'est suffisant, ou est-ce que finalement, pas très loin, dans quelques montagnes avoisinantes, eh bien les troupes adverses sont là qui attendent que les Français repartent pour revenir en masse.
Oui, j'entendais un militaire commenter les choses dans ce sens-là et dire que de toute façon, bon, la frontière, ils vont vite y arriver, mais que le vrai problème, c'est maintenant qu'il y a des négociations politiques à Bamako,
voilà,
entre
oui.
le pouvoir et puis les gens qui sont censés représenter cette région, les Touaregs en particulier,
voilà,
et
oui.
le MLNA, pour qu'ils puissent se mettre d'accord, et avec les troupes maliennes restant après, mais pas en troupes d'occupation de la zone Touareg, mais en troupes sous le chapeauté par les Touaregs, et qu'ils arrivent à un accord sur leur question d'autonomie, sans quoi ça tiendra pas.
Il faudra bien concevoir un système fédéral qui permette effectivement aux gens d'Azawad de retrouver une autonomie. Mais ils réclament carrément l'indépendance, mais bon, ça va peut-être passer par l'autonomie préalable, à condition que ce soit une véritable autonomie. Mais c'est un mouvement laïque qui effectivement a rompu. D'ailleurs, ils se demandent comment ils ont pu se laisser surprendre par les autres. Sont eux qui ont déclenché le mouvement, et après ils ont été submergés par l'ACMI et les djihadistes. Oui. Ça a été un gros échec de leur part. Oui, c'est-à-dire que sur le plan militaire, ils sont pas très forts, quoi.
Et du côté des islamistes, il y a aussi des dissensions, de la division actuellement, puisqu'il y a un des groupes, hein, qui s'est scindé avec je pense que les gars sentent que c'est en train de mal tourner pour eux, donc ils se déclarent prêts à négocier. On a même eu hier, je ne sais pas ce que c'est devenu cette affaire, les codes d'un otage qu'il cherchait à négocier le plus rapidement possible. On sent que Là aussi, entre ceux, les jusqu'au boutistes qui sont prêts à mourir, et ça leur arrive de temps en temps pour leur cause, et puis ceux qui se disent il est peut-être temps de se replier un peu diplomatiquement et faire profil bas en acceptant, quitte à voir après ce qu'il pourra en advenir. Quoi. C'est bonne guerre quoi, dans ce genre de situation.
Oui, oui.
Voilà, quelque chose de plus à dire
Ben, on peut, oui, simplement se féliciter du minimum, à savoir que, répétition par Hollande, que la France n'est pas en train de reproduire un schéma antérieur de colonisation qui ne dirait pas son nom.
Bien sûr, ce qui change la donne, et c'est vrai pas seulement des gens du Mali, mais des autres pays africains, c'est que pour le moment, tout le monde est très content de voir une armée efficace être intervenue au moins 6 mois plus tôt que prévu. Hein, c'était le mandat de l'ONU, quoi. Deuxième semestre 2013, là, c'est, ça devrait être réglé avant la fin du premier semestre.
Quoi. Oui, surtout avant l'arrivée des grosses chaleurs. Hein.
Voilà.
C'est une région, pour faire la guerre dans le Sahel, il faut être rudement préparé.
Voilà, ça c'est un premier sujet. Le deuxième, tu as une idée
ou... Mais je crois que c'est oui, ce que tu penses, enfin, ce que tu as signalé, l'Égypte, hein, qui vraiment ça se passe très très mal pour Morsi. Bon, il donnait l'impression, sans renier effectivement sa filiation, qu'il allait quand même, que c'était un président moderniste qui avait fait ses classes aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, et que de ce point de vue-là, donc il n'y avait rien à craindre, et il n'allait pas quand même appliquer la charia et autre chose. Bon. Et puis finalement, en face, on ne le croit pas beaucoup. Et même il y a des pans entiers d'islamistes, alors je sais pas quel jeu ils jouent ceux-là, qui sont même pas d'accord avec lui sur ça, qui veulent justement un islam charia. Et qui peuvent se retrouver bizarrement dans la rue avec les laïcs et les autres.
Oui. Alors sur les faits de ce qui se passe, donc depuis le week-end, depuis vendredi, pratiquement, on en est une cinquantaine de morts. La situation évolue d'heure en heure. Au départ, tout ça est venu des résultats d'un procès, puisqu'il y a un an, il y avait eu, entre Le Caire et Port Saïd, semble-t-il, un match de foot, des affrontements. 74 morts quand même en février 2012. Donc on a accueilli un certain nombre de responsables ou de pseudo-responsables de ces émeutes qui avaient fait tous ces morts. Et un an après, on les juge et on en condamne une vingtaine à mort. C'est quand même lourd, hein, aussi. Il faut dire que là-bas, ils ont la peine de mort un peu facile, quoi. Du coup, bah, évidemment, les gens qui étaient condamnés, c'était des gens de Port Saïd, hein. Leurs familles, leurs amis, tout ça, ça a provoqué une émotion très forte et tout le monde est descendu dans la rue. Et ça a été la première phase de ces émeutes qui ont fait une vingtaine de morts samedi, alors les blessés par centaines. On attaque des commissariats et tout. Et puis maintenant, ben, l'insurrection à la fois se répand déjà sur plusieurs villes et au Caire et aussi à Port Saïd, à Suez, à Ismaïlia, le long du canal de Suez. Oui. Et puis ça tourne à la contestation plus globale de la police, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de choses à reprocher au pouvoir actuel. Hein. Tous ceux qui sont laïcs et républicains ne trouvent pas leur compte. La police a engendré de sévères rancœurs qui trouvent toujours à s'exprimer contre elle, à juste titre sans doute, aujourd'hui. Et on est ce soir, donc, enfin aujourd'hui et ce soir, confronté à une nouvelle contestation, un nouveau printemps arabe, c'est vite dit, mais enfin, quelque chose de cet ordre-là en Égypte, 2 ans après la première révolte qui avait renversé Moubarak. Alors, cette deuxième viendra-t-elle à bout de Morsi? C'est une question qu'on peut se poser ce soir.
Et d'ailleurs, on observe que là où il y a le plus de victimes, c'est sur les grandes villes, le long du canal de Suez, Port Saïd, Suez même, Le Caire, et que cette contestation est liée à la structuration depuis la nationalisation du canal de Suez, d'une classe sociale qui mêle à la fois une certaine bourgeoisie et puis une classe ouvrière, hein, qui c'est tout à fait lié au développement de cette zone industrielle. Et c'est celle-ci qui refuse le schéma actuellement proposé par Morphy et qui paye le prix lourd à l'évidence.
Oui, puis on sait que l'Égypte est dans une situation sociale et économique gravissime et que Morsi n'apporte pas de solution. Hein. Le tourisme a chuté, évidemment, face à tout ça. Les tours opérateurs ne vont plus.
Là, on ne peut pas le lui imputer,
Enfin, s'il avait stabilisé la situation, on n'en serait pas là. L'Égypte est sous perfusion des Américains, donc là aussi, le pouvoir ne peut pas faire n'importe quoi. Il reste un prolétariat des gens qui n'ont plus de rien de vivre.
Il a plus le discours habituel dans ces cas-là. Il a dit, il nous faut de la stabilité, sinon le FMI ne nous prêtera pas de sous. Quoi. Donc le discours habituel quoi, de ces gens-là au pouvoir.
Allez, on se tourne un petit peu vers la Syrie, le troisième point chaud là dans le coin, donc avec une situation un peu stable si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a des morts tous les jours. L'Assad continue ses attaques. Là, il s'est retourné à nouveau vers Homs, qui avait été pris en main par les rebelles. Il y a une rencontre interministérielle demain, je crois, à Paris, 50 pays. Pour aider la coalition, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, aider la coalition à se structurer et à trouver une unité. On sent que les pays occidentaux cherchent à constituer un front présentable et commun politique pour la suite de El-Assad, mais El-Assad n'est pas encore parti. Loin de là, lui, il continue à penser qu'il va arriver à bout de cette rébellion.
De toute façon, il a encore, d'après la constitution syrienne, il est au pouvoir jusqu'en 14. Alors, non, quand on est au pouvoir, il peut changer la constitution et puis faisant l'état d'urgence pour dire, c'est pas le moment d'organiser une élection présidentielle. Mais pour lui, il a encore un an et demi un an, je sais plus quel est... un an de pouvoir constitutionnel en Syrie. Et il dit, on fait des élections dans un an, c'est prévu, et puis je serai candidat, et puis d'autres seront candidats, et puis... Alors on lui dit, non, ça marche pas, parce que faut pas que vous soyez candidat. Alors bon, c'est... il est pas fou, et il dit, c'est pourquoi je serai pas candidat. Bon, à ce moment-là, effectivement, on peut mettre des systèmes internationaux de contrôle des élections, tout ça, des médias et tout, mais les Occidentaux sont butés, c'est comme le même, ça a été la même chose avec Kadhafi. En fait, au départ, il n'était pas prévu de l'assassiner. Et puis finalement, ils avaient l'impression qu'il ne pouvait rien se passer s'il ne l'assassinait pas. Et là, on a l'impression que c'est la même chose. Tout ce qui peut être tenté, pas forcément réussi, mais tenté, côté syrien avec le pouvoir en place tel qu'il est, eh bien, on considère que non, ça n'a pas de valeur. Alors, c'est ce positionnement des Occidentaux, je ne sais pas à quoi c'est dû, cette rigidité qui bon, c'est est-ce que c'est l'ONU, est-ce que c'est parce que effectivement les Américains sont pas très chauds, ils sont pas les premiers les va-t-en-guerre les plus durs par rapport à la Syrie, c'est plutôt les comme d'habitude, c'est plutôt les Anglais, les Français. Oui.
Alors, dans les événements qu'on peut signaler de la semaine, donc il y a eu la prise d'une prison de l'État par les rebelles qui ont libéré 300 détenus. Je pense qu'ils sont sitôt enrôlés et qu'on trouvait 30 exécutés, bien sûr, dans la prison, forcément. Et puis, il y a cette prise de position de Mendeleev en... Medvedev, pardon, on se demande pourquoi il a laissé entendre, il a pris un petit peu de champ par rapport à son soutien à El-Assad en lui reprochant d'avoir fait des erreurs bizarres. Et il y a aussi la question des armes chimiques qui font un peu polémique parce que certains observateurs, certains journalistes ont relayé en disant qu'il y avait eu une utilisation localisée mais réelle d'armes chimiques. Alors là, on a l'impression que tout le monde, c'est le bâton merdeux, hein, les armes chimiques, puisque tout le monde a dit que si jamais El-Assad en utilisait une, ça changerait toute la donne. Les Israéliens, les premiers d'ailleurs, ont déclaré ça. Et on a l'impression que même si El-Assad a un peu utilisé quelque part des armes chimiques, tout le monde regarde ailleurs et finalement, pour le moment, préfère ne pas en tenir compte et ne pas passer aux promesses ou aux engagements qui avaient été pris dans ce cas-là. Alors, on ne sait pas pour le moment.
Oui, oui. Mais et c'est l'intox va très fort. Elle vient toujours des milieux proches de la coalition rebelle. Mais on a vu que beaucoup d'informations qu'on présentait comme effectivement des actes sauvages de Bachar el-Assad, en fait n'ont jamais été confirmées, n'étaient pas confirmées par des gens qui pouvaient effectivement attester de ce qui s'était passé. Et là, bon, peut-être l'histoire de la prison, peut-être, je sais pas. Mais les armes chimiques, on sait que les armes chimiques, c'est un problème beaucoup plus grave parce que les rebelles avaient mis la main sur une usine. C'est quand qu'ils occupent toujours d'ailleurs une zone près de la Turquie, avaient mis la main sur une usine qui fabriquait non pas l'arme chimique totale, mais des éléments. Et alors du coup, ça semait la confusion la plus totale, parce qu'on se dit, bon, mais qui eux aussi peuvent l'utiliser, donc où va-t-on?
Et des nouvelles de la liberté de la presse. Alors, d'une part, en Iran, 10 journalistes ont été arrêtés hier. Et d'autre part, en Thaïlande, vous savez, la Thaïlande, c'est un paradis pour les touristes français. Tous ceux qui y ont été vous le disent et veulent vous emmener avec eux la prochaine fois. Eh bien, sans ce paradis, c'est pas le paradis de la liberté de la presse, puisque un journaliste a pris 10 ans de prison pour le très grave crime de lèse-majesté, de manque de respect au roi. Ça laisse un peu perplexe, quoi.
En termes de liberté, ça ne s'arrange pas du tout en Arabie Saoudite. J'ai lu qu'une loi a fait que dans les grands magasins, on va mettre des cloisons pour séparer les hommes des femmes, parce que maintenant dans les grands magasins, effectivement, ils avaient décidé qu'il y aurait des vendeuses comme il y avait des vendeurs, mais ça finalement le ministre des cultes du culte, puisqu'il y en a qu'un qui est vraiment reconnu, a dit non, ça va pas du tout, ça va pas, il faut mettre une cloison, faut bien séparer les hommes des femmes. Alors, la cloison, le plus cynique, c'est que la cloison, elle fait 1m60. 1m60, hein, j'ai lu ça, j'invente rien. Elle fait 1m60. Ça veut dire que les hommes, ils pourront reluquer les femmes.
Les petits sont déjà avantagés.
Et les femmes, elles, naturellement, ne pourront pas, parce que la moyenne, à 1m60, c'est au-dessus de la moyenne pour les femmes. Alors, par contre, bon, si elles mettent des chaussures à talons très, très hauts, ça...
beaucoup de hauts talons.
Si ça n'était pas scandaleux, on trouverait ça risible.
Allez, une bonne nouvelle. Chavez devrait revenir au pays dans un mois. Il paraît qu'il va mieux. Alors, on va voir, mais on veut bien croire.
Dieu l'a exaucé alors.
Si on nous le dit.
Parce qu'il s'en remettait plus qu'à Dieu à la fin de sa, sa rechute. Oui. Mm. Oui.
Voilà, d'autres infos
Non, qu'est-ce que j'avais? J'avais vu que les bombes
tombiquaient. Les bonnes nouvelles aussi, les Américains, ils étaient 8000 à manifester pour la législation sur les armes à feu. Bon, c'est un peu comme les manifs pour le mariage pour tous. Ils seront peut-être 800 000 à manifester pour le maintien de la liberté des armes. Mais enfin, malgré tout, c'est bien que la population s'exprime et se montre sa position aussi dans cette opposition à une divulgation tout azimut des armes à feu aux États-Unis.
Je voyais qu'au Brésil, il y a une discothèque qui a flambé. Enfin, elle a surtout intoxiqué tous les gens qui étaient dedans. Mmh. Comme c'est toujours comme ça que ça se passe. Mmh. Et naturellement, c'est sud du Brésil, à Santa Maria. Et pourquoi tous les gens sont morts? C'est-à-dire je crois qu'il y en avait, j'ai plus le chiffre, 230 je crois.
Ouais, mais ils accueillaient 2000 plus. Personnes là-dedans, hein, c'est énorme.
Plus, beaucoup, oui, voilà. Mm. Mais en fait, les portes de sécurité étaient verrouillées pour empêcher les fraudeurs. Et en plus, les gens, il fallait que pour pouvoir sortir, ils étaient obligés de prendre les tourniquets, qui sont les trucs qu'on passe un par un, puis surtout dans le sens de l'entrée. Mmh. Donc évidemment, c'était la mort assurée, quoi. Donc, alors ils ont mis les gens en prison, 3 jours de deuil, tout ça, mais je veux dire, le souci du fric est tel que il n'est pas prévu que automatiquement, on pourrait mettre un système automatique. Dès lors qu'il y a une émanation de gaz toxique, crac, les portes de secours s'ouvrent automatiquement. Pas besoin d'aller chercher plus loin. On a les technologies pour ça aujourd'hui. Et du coup, j'avais recherché le drame qui s'était passé à Saint-Laurent-du-Pont, à côté de Grenoble. Mmh. C'était en novembre 1970. Ouais. À la discothèque 5-7, le 5-7, on a beaucoup naturellement parlé, ça fait beaucoup de bruit. 145 morts, hein, 145 morts. Mmh. Et la discothèque, il y avait 6 mois qu'elle avait été inaugurée. Est-on sûr aujourd'hui que si un fait comme ça se reproduit, les gens pourront s'échapper rapidement? Rien n'est sûr.
Non, mais il y en a eu beaucoup d'autres, hein, entre-temps, pas en France, mais un peu partout, et à chaque fois c'est la même chose. J'allais te dire, j'ai pas regardé le sujet de près, mais à tous les coups on va découvrir qu'ils avaient bloqué les portes de sortie de sécurité. Et ben voilà, comme tu l'as dit, c'est toujours le même scénario, quoi. Hein, et c'est le fric, bien sûr, qui est à l'origine de tout ça, quoi. Voilà, autres sujets internationaux. Pascal Lamy quitte l'OMC, ça te fait pas beaucoup de peine, tu vas pas pleurer pour ça. On lui cherche un successeur, t'es pas candidat, là.
Et un poste, une planque, un ministère, non,
je pense qu'il a fait son temps, c'est peut-être la retraite, mais même si on lui trouve un successeur, ça va pas tout régler, parce qu'il semble que l'OMC est un peu dans une impasse, entre autres à cause des Américains et des Chinois qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les règles du jeu et qui commencent à parler de solutions, enfin de d'engagement de contrats unilatéraux en dehors de l'OMC. Quoi. Donc,
À propos des grands personnages, on peut la mettre en international, parce que vraiment c'est un personnage international. Anne Lauvergeon, c'est une proposition française que les Allemands doivent entériner, va la mettre à la tête du CA de ADS. Alors moi je me disais, mais depuis le temps qu'elle est au pouvoir, mais elle doit être très âgée, 53 ans.
Non, pas du tout.
Elle était Sherpa chez Mitterrand, elle avait même pas 30 ans. Hein. Mitterrand.
C'est des grands technocrates de la République, ça.
Ouais,
Davos non plus. Il paraît que ils nous ont fait des reproches. Ils reprochent à l'Europe de plomber la croissance mondiale. Donc, il faut qu'elle se secoue, l'Europe, paraît-il, selon les Davosiens. Voilà, tu avais d'autres infos internationales, on fait une pause musicale. On va la faire avec Serge Ucheroyo qui chante Léo Ferré, c'est tout un programme ça. Et il chantera pas seulement Léo Ferré, surtout son nouveau disque, je pense, vendredi et samedi à la Maison des Passages à Lyon. Allez, on se remonte le moral avec l'âge d'or.
Comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits, les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent. Mais notre âge alors sera là. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous les discours finiront par je t'aime, que ne vienne alors.
Serge Ucheroyo interprétait l'âge d'or de Léo Ferré dans sa version. Canu Info de ce lundi 28 janvier 2013 avec Robert et Jean-Pierre. On aborde la rubrique nationale. Alors, on va peut-être faire un grand tour par le social parce que c'est pas les sujets qui manquent. Hein, entre Gauguière qui attend la loi d'interdiction sur les licenciements boursiers et qui la voit pas venir et qui en attendant donc manifeste à Paris contre la fermeture de leur boîte à Amiens qui entraînera 1250 licenciements. Virgin qui manifeste aussi demain avec face au projet de licencier la moitié des 1200 employés et de fermer 10 magasins sur 26. PSA Aulnay qui a été confronté ce matin à une tentative de brisage de grève par le patronat d'une manière un petit peu soft et sournoise, mais la grève durait depuis 10 jours et ce matin il y avait à 5 heures du mat, faut les faire lever. À cette heure-là, il y avait 200 cadres et des vigiles qui attendaient les salariés qui venaient travailler pour les mener gentiment à leur poste. Les syndicats en sont aussi mobilisés et sans qu'il y ait de violence physique, ont réussi à bloquer la situation et à empêcher que l'usine produise aujourd'hui encore la moindre voiture. Voilà, tu as peut-être quelques commentaires ou d'autres infos aussi sur ces...
C'est-à-dire que demain, effectivement, va être une journée importante, demain après-midi à Paris, qui va, y compris... interpeller, si elle est réussie naturellement, interpeller les centrales syndicales, notamment celles qui ont signé l'accord avec le MEDEF sur la flexibilité et la sécurisation, puisque demain à 14h, un grand rassemblement est programmé devant le ministère du Travail. Alors, c'est un appel qui n'est pas un appel intersyndical, syndical. C'est un appel de salariés en lutte. Et on va dire, ça nous rajeunit un peu, parce que c'était une appellation qu'on connaissait bien dans les années 70-80. Les salariés en lutte qui, justement, souvent, mettaient en cause la mollesse des syndicats quand ça n'était pas carrément qu'elles signaient des compromis inacceptables, des négociations à froid, comme on disait à l'époque, avec le patronat. Alors là, il y aura effectivement beaucoup de monde, tous ceux que tu as cités, je les reprends, les salariés en lutte de Pilpa, Bigard, Crédit Agricole, Vaurecia, Fnac, Ford, Fralib, Goodyear, PSA, Sansonite, Sodi Médical, Sanofi, Sony, Valeo, ZF, Coca-Cola, Merckx Serrano. Et ils mettent point de suspension, et ils en ont, comme ils disent, on en a peut-être sans doute oublié. Alors ce rassemblement a pour but de demander que tout de suite l'Assemblée nationale vote en urgence une loi interdisant les licenciements dans les groupes qui font des bénéfices. Alors on va me dire que ceux qui font pas des groupes font pas des bénéfices, seraient laissés pour compte. En fait, non, les choses sont pas si simples, parce que souvent, à travers les systèmes de filiales, des entreprises peuvent apparaître déficitaires dans un endroit, alors que la productivité et le cahier de commande et la plus-value est largement bénéficiaire. Donc voilà, alors c'est donc un appel qui, certainement, je ne sais pas, il ne peut avoir que le soutien des deux syndicats, FO et CGT, qui ont refusé de signer l'accord du compromis historique, comme disait Hollande. Mais pour les autres, et puis pour tous aussi, c'est quand même un questionnement très fort. Alors, du succès de cette manifestation, peut-être pas en nombre, parce que salariés en lutte, hein, vous savez, les gens, d'ailleurs, pas forcément à tort, mais sont dans la tradition de syndicale, c'est-à-dire on y va avec le syndicat ou on n'y va pas, mais dans les périodes de crise engendrées par le capitalisme, eh bien, c'est difficile d'y aller sans couverture d'aucune sorte. Alors, on verra ce qu'il en résultera demain, mais c'est évident que le PS, de son côté, va sans doute faire comme il a fait l'autre jour avec les salariés de Florange. Harlem Désir, il est descendu à leur rencontre. On pensait que les gens allaient lui dire « Écoute, Harlem, t'es bien gentil, mais on n'a rien à voir avec toi parce que tu fais rien pour nous. » Eh bien, finalement, non, ça c'était bien. On tchatchait dans la rue tranquillement, Désir, avec les salariés de Florange, évidemment. Mais ça peut pas durer, hein. On peut dire qu'il y a encore, malgré la critique virulente, il y a encore une espèce d'état de grâce pour le gouvernement de gauche. On n'ose pas trop l'attaquer trop fort. Hein. Tout le discours sur la crise a fait des dégâts, hein, à travers le discours sarkozien. Et aujourd'hui, on en est toujours là. C'est à voir pour la suite de cette initiative qui peut avoir des lendemains importants.
Alors, tu parlais de Mittal.
Je voulais ajouter que les cheminots se rassemblent. Tiens, j'ai pas vu l'heure. Mais les cheminots se rassemblent jeudi. À peu près toutes catégories confondues. Ils n'ont pas lancé. Ce qui pose toujours un problème, ils n'ont pas lancé d'arrêt de travail, donc ça va être les gens qui se trouvent en repos, couverts par des mandats syndicaux, etc. Donc ils attendent 6 ou 7 000 personnes, et l'objectif à Paris, c'est de réclamer, là encore, du gouvernement, du ministre des Transports Cuvelier, qu'il fasse ce qui a été promis. Je ne sais pas si c'est dans le message de Hollande, mais c'était de toute façon écrit d'avance, de réunifier SNCF et Réseau Ferré de France contre l'avis de Bruxelles, peut-être. Alors que Pépi, actuellement, qui est le patron de la SNCF, continue d'appliquer la circulaire Sarkozy, qui est la continuation donc de ce démantèlement en deux structures qui seront mises sur le marché européen. Donc à Paris, ça c'est jeudi.
Ouais, alors je disais,
voilà, donc, aujourd'hui, pour les gens qui nous écouteront ce soir sur Internet et qui habitent Paris ou pas loin, qu'ils peuvent peut-être aller soutenir l'initiative très originale des salariés en lutte à 14h, devant le ministère du Travail à Paris.
Oui, on parlait de Mittal tout à l'heure. Voilà, alors, ils ne seront peut-être pas à Lyon, ils ne seront peut-être pas à Paris
oui,
demain.
Allô, tu m'entends ?
Oui, oui.
Allô ?
Oui. Tu n'entends plus ?
Allô ?
Moi, je t'entends normalement, mais tu n'as pas l'air de m'entendre.
Je t'entends très, très faiblement, là. Bon, ça va.
C'est ce qu'on peut faire.
je voulais dire encore un mot. Simplement, on a vu un Montebourg profil bas dans une des grandes émissions de la 2, avec Pujadas, où il est allé même jusqu'à dire finalement le patron de PSA c'est un type bien.
Là, il a rendu hommage à Varin. Oui.
Il a dit ça.
Oui, c'était indiscutable.
On avait l'impression
que c'était. Oh, il parlait à titre personnel, quoi. C'est un type bien qui vit des contradictions, oui. Des choses difficiles, quoi. Enfin, il trouvait des tas d'excuses, quoi.
Oui.
Il l'a mis dans sa poche, apparemment.
Oui, et puis tout, chaque fois qu'il était questionné sur votre différence, c'est quoi ? Il n'y avait plus de différence. On est solidaire, point final, voilà.
Bon, je vais en venir donc à parler de Mittal à Liège, hein, puisque Mittal à Liège, il s'était promis lui aussi d'investir 138 millions d'euros dans l'entreprise. Et en fait, il ferme 7 lignes de production sur 12 et il licencie 1300 personnes. Alors ces Mittal-là ne seront peut-être pas à Paris demain, mais ils à la Belgique, c'est pas si loin de la France. Et on est sur les mêmes comportements que ceux qu'on connaît à Florange. Et puis dire quelques mots aussi des retraites où on nous promet une réforme, mais on veut nous rassurer. Alors je ne sais pas comment elle va être faite. Si, on nous dit que la réforme, ça va consister à faire un système à points, mais qu'on ne s'en prendra ni au niveau des cotisations, ni aux réductions des retraites, ni à l'âge, ni à rien du tout. Alors c'est un peu de la magie, on va voir ce qui sort du chapeau de nos gouvernants dans le domaine, qui puisse être indolore dans l'instant et efficace dans le temps. Il serait bien étonnant que ça ne se retourne pas quand même contre les bénéficiaires à un moment ou à un autre. Et puis on est confronté à un petit problème de santé publique avec ce produit qui s'appelle Diane 25, une fausse pilule, un vrai danger. En fait, on sait maintenant que c'est un produit qui avait été mis sur le marché pour traiter l'acné. Mais comme il contient des œstrogènes, il se trouve aussi qu'il a des vertus pas contraceptives. Ça, c'est pas le plus gênant. Ce qui est gênant, c'est qu'effectivement, il y a des risques faibles, certes, mais non nuls, puisqu'on aurait 4 morts, en 25 ans, pour des millions de plaquettes vendues. Et sur actuellement, par exemple, 320 000 utilisateurs, utilisatrices potentielles. Remarquablement efficace pour l'acné, ce qui fait que les adolescents se jettent dessus, mais pas forcément avec des médecins qui prennent toutes les précautions, et je ne sais pas quelles doivent être ces précautions, mais elles peuvent être multiples, pour éviter à ces jeunes en peine de boutons sur la figure de se retrouver dans un cercueil quand même, parce que on a beau dire que c'est 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, c'est toujours un de trop quand il s'agit de soigner. Ce produit a eu une autorisation de mise sur le marché en 87 et aujourd'hui, c'est un petit peu remis en cause. Alors, Le produit en soi n'est pas très loin des pilules de troisième génération et de deuxième génération qui comportent les mêmes composants avec les mêmes effets éventuels en matière de thrombose, c'est-à-dire d'embolie pulmonaire, de phlébite et de choses comme ça qui vous fabriquent un petit caillot dans les circuits veineux qui, s'il a le malheur de remonter mal au cœur, eh ben, vous tue instantanément.
Et comment ça se passe, les femmes, là tu parlais des adolescentes qui
c'est les médecins hein, quand même qui prescrivent.
Oui, bien sûr, c'est bon. La responsabilité est chez le médecin. Mais quand elles atteignent un âge, je sais pas, quand elles atteignent 25 ou 30 ans, elles changent de pilule ou à ton avis, elles gardent toute leur vie cette pilule-là?
Non, c'est un grand problème. Rares sont les personnes qui font toute leur vie avec la même contraception. C'est justement pour ça qu'on conseille, on va pas faire de la consultation médicale ici, mais aux gens de voir avec leur médecin quelle est à tout moment de la... tous les moments de leur vie, quelle est la contraception la mieux adaptée pour eux, quoi. Mais c'est vrai, il y en a, oui, qui vont fonctionner toute leur vie avec les œstrogènes. Puis il y en a pour diverses raisons, ces raisons-là ou d'autres, qui en ont marre de prendre une pilule tous les jours. Il y a des implants, il y a des stérilets, il y a une multitude de... Et puis il y a aussi de la contraception masculine, parce que dans le discours là-dessus, ce qui est un peu agaçant, c'est de toujours faire porter cette responsabilité sur les femmes, alors qu'il y a aussi des moyens. S'ils veulent vraiment être tranquilles, ils peuvent se faire vasectomiser, les mecs. Hein. Faut pas qu'ils nous racontent des histoires, hein, s'ils veulent plus.
Oui, mais on avait bien aussi... Il y avait bien des projets de pilules pour hommes.
Non. Oui, aussi, mais ça n'a pas abouti. Après, il y a le préservatif.
On n'a pas
cherché trop à faire aboutir. Hein. Enfin, les essais qui ont eu lieu il y a une vingtaine d'années engendraient un certain nombre d'effets secondaires qui ont fait que ça a été abandonné assez vite. Mais après...
Mais la vasectomie, on peut revenir en
arrière maintenant. Maintenant, oui, peut-être on peut. Ou on met des cellules au congélateur, mais bon...
C'est pas évident.
Les gens qui veulent être débarrassés, on conseille bien aux femmes de se faire enlever l'utérus, et quelquefois on conseille, ça s'impose quand il y a des cancers qui commencent à se développer, on peut tout aussi bien préconiser des contraceptions radicales pour les hommes que pour les femmes. Hein. Enfin, c'est un sujet qui déborde un peu notre actualité. D'autres sujets nationaux, le Vergeon ADS, on l'a dit. Ah oui, il y a cette histoire de gaz toxique dans les containers, c'est un problème de santé aussi. Les Chinois, puis pas que, je pense, ne s'enquiquinent pas. Quand ils ont des produits qui sont susceptibles d'être bouffés par des insectes ou des bestioles, avant d'envoyer le container qui part pour quelques mois, quelquefois en bateau ou stocké sur des quais, ils introduisent dedans un gaz toxique qu'ils essaient donc de rendre le conteneur étanche. Et bon, ce gaz toxique va tuer tous les parasites, toute vie parasite dans le conteneur. Ça marche très bien avec les mouches, les insectes, les charançons et compagnie. L'ennui, c'est que ça marche aussi avec les dockers qui ouvrent le conteneur à l'arrivée, quoi. Et le cas le plus grave qu'on ait connu, c'est aux Pays-Bas, un type qui s'est retrouvé 5 jours dans le coma pour avoir respiré ces produits. Alors, il y a des procédures d'ouverture des portes, de ventilation, d'injection de soufflerie, d'injection d'air, pas pénétrer dans le conteneur pas avant une demi-heure après l'ouverture, mais c'est pas très sécurisé et les syndicalistes réclament aujourd'hui qu'il y ait des procédures beaucoup plus rigoureuses pour désintoxiquer ces bacs avant qu'eux puissent pénétrer dedans. En plus, même après une demi-heure, ils pénètrent avec des masques à gaz, hein, c'est dire. C'est... Voilà, alors c'est un sujet de société qui mérite de retenir
comme
un peu l'attention.
Et le débat au Parlement qui va entériner le mariage pour tous, on préférerait dire, nous, moi personnellement, l'égalité des droits, parce que ça, on n'est pas forcément d'accord pour le mariage.
Oui, donc, c'était le thème de la manif d'hier, l'égalité des droits. Hein.
L'égalité des droits, voilà, ça aurait été mieux, mais oh là là, c'était trop demandé peut-être à ce gouvernement.
Voilà, alors bon, là, au départ, l'idée c'était d'être plus nombreux que les opposants. Ils se sont vite rendus compte qu'il fallait changer d'argument et on s'est contenté de dire qu'on était bien contents parce qu'on était plus nombreux que la fois précédente. Ceci dit, c'est vrai que les autres avaient réussi à amener trois fois plus de manifestants que... hier, mais c'est un peu normal aussi parce que les supports de ces nouveaux droits-là ne sont pas dans la population dans une telle majorité. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire l'Assemblée nationale commence donc demain le débat sur le mariage pour tous ou homosexuel, enfin comme on veut. Quoi. Et puis, ben, Fessenheim aussi un petit mot, parce qu'on est en train de se rendre compte que Hollande, s'il a durci ses positions au Mali, il les ramollit très fort sur le nucléaire, puisque maintenant, on commence à se demander si dans 4 ans, Fessenheim sera bien fermé. On n'arrête pas de trouver des bonnes raisons pour que elle continue de fonctionner. Et puis, s'il y a cette mesure, elle ne concerne pas énormément de monde, 10 000 quand même en France, du rétablissement par héros, le gouvernement socialiste ne prend pas tellement de bonnes mesures sociales pour qu'on oublie de les signaler quand il y en a. L'AER est rétabli. Hein, l'AER, c'était cette allocation qui prenait le relais pour les chômeurs âgés quand ils arrivaient au bout de leurs droits aux ACEDIC. Alors ça les conduisait à passer au RSA, c'est-à-dire dans les 450 euros. Et avec ce système d'AER qui a été supprimé par Sarkozy en janvier 2011, ils vont le retrouver et ça représente donc 1030 euros au lieu de 450. Apparemment, 10 000 personnes seraient concernées et c'est pas rien quand même.
C'est pas maintenant, je crois. C'est au mois d'avril, hein, d'après je crois. Enfin, il y a toujours un délai, effectivement, d'application. Et l'espoir fait vivre. Oui.
Voilà, et ben, je pense qu'on est un petit peu au bout. En culturel, j'ai pas grand-chose de plus.
Si, cet accident de chasse. Ah. Un automobiliste qui circulait tranquillement sur une route de l'Oise, il s'est pris une balle dans la tête. Et ben, visiblement, c'était dans un secteur où une grande chasse était organisée pour limiter le nombre de sangliers. Alors, on nous raconte qu'il y avait un type qui était en haut d'un mirador. C'est déplaisant, cette idée de faire la chasse avec des miradors. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Et donc, il aurait tiré sur un sanglier qui normalement, ben, aurait dû être tué. Mais, bizarrement, on est allé jusqu'à raconter que la balle avait pu ricocher sur son crâne et repartir dans une autre direction et traverser la vitre et puis venir frapper l'automobiliste. Il était avec sa femme, d'ailleurs, et la voiture s'est retrouvée au milieu des champs parce qu'il a été tué sur le coup. La balle, elle est bien entrée dans sa tête, à lui, l'automobiliste. Par contre, la balle n'aurait pas réussi à percer le crâne du sanglier, comme quoi les sangliers ont la tête dure.
Ont la tête et la vie dure.
C'est
récent, naturellement, parce que j'en ai connu un autre d'accident il y a quelque temps comme ça, d'un type tué dans sa bagnole. C'est récent, l'événement dont tu parles, là ?
Ah, c'est aujourd'hui.
Ah, oui, donc,
on l'a appris aujourd'hui, ça a dû se passer hier.
C'est le deuxième dans la saison de chasse. Là.
Oui. Alors, il y a une plainte d'une association de défense des animaux, l'ASPAS, qui va porter plainte sur cette affaire-là. On va voir.
Ouais, je voulais juste te dire, pour terminer ce qu'il y a une fois, que Sartlo sera à tout bout de champ le jeudi 31, cette semaine, pour les amateurs qui veulent se détendre un peu avec des choses rigolotes. Sartlo, c'est tout indiqué. Ce Canu Info sera diffusé demain matin à 8h. Il sera écoutable sur Internet dès ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine et bonne soirée à vous. Ne quittez pas l'antenne.
Su propia fe. todos tras de mí a correr.